Bon début de soirée à l'écoute de la première radio des Alpes du Sud. Il est 18h.
18h, 19h. Au bout de l'actu, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Boule d'Actu, 18h, 19h, une heure de direct, d'infos et d'opinion avec notre invité. Comme chaque soir, bonsoir Cyrielle.
Bonsoir Alex, bonsoir à tous.
Notre invité ce soir.
Karine Berger, députée socialiste des Hautes-Alpes et conseillère municipale d'opposition à la ville de Gap. Et pour ouvrir cette heure, le 49.3 expliqué en moins d'une minute. Cet article de la Constitution permet au Premier ministre d'imposer l'adoption d'un texte de loi sans vote. L'Assemblée nationale ne peut s'y opposer qu'en renversant le gouvernement par une motion de censure adoptée par la majorité des députés. Le record d'utilisation du 49.3 est détenu par Michel Rocard, 28 recours. Le dernier recours en date 18 juin 2015 par Manuel Valls pour l'adoption de la loi Macron. Voilà. Je vous aurais dit ça en mars dernier pour la loi travail, on aurait économisé 2 mois de grogne, de mobilisation, de casse, parfois de nuit à rester debout, des www.loitravail.lol. La loi travail, nous en parlerons donc avec notre invité, mais pas que, en espérant qu'elle ne fasse pas 49.3 sur nos questions.
Bonsoir Karine Berger.
Bonsoir. Bonsoir à tous les deux.
Et merci d'avoir quitté l'hémicycle pour rejoindre votre territoire et les studios d'Alpe 1, car les discussions continuent aujourd'hui, mais elles tournent plus autour de la motion de censure de la droite face à Manuel Valls qui, à cette heure même, s'exprime face aux députés principalement de droite pour faire changer la donne et faire comprendre pourquoi il est nécessaire de faire passer le 49.3. Et on verra avec vous pourquoi il aurait été nécessaire de ne pas passer justement par le 49.3 à travers les amendements que vous avez proposés pour essayer de rééquilibrer un texte qui ne vous semblait pas juste au départ. Rendez-vous également durant cette heure avec votre rendez-vous, le Selfomaton, tout à l'heure à 18h50.
Et puis vous deviendrez la programmatrice musicale d'Au bout d'actu.
À vous, la phrase du jour, à vous de découvrir qui a dit quoi dans l'actualité.
Qui a dit, j'espère que c'est un canular, j'espère.
Et puis rendez-vous autour de l'actualité avec la Tribune Libre.
Près de 3 personnes sur 10 affirment avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel, un phénomène plus répandu chez les femmes mais qui touche également 7% des hommes. Face à ce phénomène, la société française est perçue comme trop laxiste. En fait-on trop autour de l'affaire Denis Baupin? Selon vous, où est-on le plus souvent victime de harcèlement sexuel et comment le prévenir?
Alpe 1. 18h-19h, au bout de l'actu sur Alpe 1.
Avec évidemment, dans Au bout de l'actu, l'essentiel de l'actualité des Alpes du Sud dans un instant. Et à la une ce soir, Cyrielle.
L'affaire des bébés secoués par une assistante maternelle du Gapençais attendue devant la justice. Une assistante maternelle d'une cinquantaine d'années suspectée d'actes de maltraitance sur nourrissons.
On y revient juste après l'essentiel de l'actualité nationale et internationale avec Marion Duchesne.
Bonsoir Marion.
Bonsoir Marion.
Bonsoir à tous. Entre débat à l'Assemblée et colère de la rue, la motion de censure de la droite est examinée en ce moment. Le vote devrait intervenir un peu après 18h. Motion contre le gouvernement et son recours au 49.3 pour faire passer la loi travail. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, dresse un bilan accablant pour François Hollande. Dernier à prendre la parole, Manuel Valls, qui défend une fois de plus sa loi travail. Dans le même temps, les manifestations continuent un peu partout en France. Entre 11 500 et 12 500 manifestants sont présents dans le cortège parisien. Des manifestations qui dégénèrent une fois de plus avec des tensions. Sophie Sarance à Toulouse, Lille, Nantes ou encore Paris.
Oui, Paris, où 2 personnes ont été interpellées à la suite d'affrontements qui ont éclaté près des Invalides. Des jeunes cagoulés ont lancé des projectiles sur les manifestants. Les stations de métro sont fermées à proximité de l'Assemblée nationale, le point de chute des manifestants. Et puis à Nantes, des affrontements ont également éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Les policiers ont dû faire usage de bombes lacrymogènes pour disperser la foule. La gare a été vandalisée avec des vitres cassées. Des manifestants ont envahi les voies. À Nantes, ce soir, le trafic SNCF est totalement interrompu.
Il s'agit du 5e jeudi de mobilisation d'affilée contre la loi travail. Plus de 1000 personnes ont été interpellées depuis le début des manifestations, selon le bilan dressé ce soir par Bernard Cazeneuve. Dans l'actualité également, une nouvelle alerte aux orages. 7 départements du nord de la France sont placés en vigilance orange ce soir. Vigilance valable jusqu'à ce soir minuit. Direction Cannes et sa croisette pour paillettes et glamour. Avec une star très attendue ce soir sur le tapis rouge, Julia Roberts doit monter les marches pour la toute première fois. Elle sera accompagnée de Georges Clooney pour le film Money Monster, réalisé par Jodie Foster. Du sport avec du football, on connaîtra ce soir le nom des 23 joueurs retenus pour l'Euro qui commence le 10 juin prochain. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, doit dévoiler sa liste dans le JT de 20h sur TF1. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente soirée à tous.
Merci Marion, et retour de cette actualité tout à l'heure à 19h dans une nouvelle édition.
Karine Berger, bien évidemment, nous parlerons un peu plus en détail tout à l'heure de la loi travail. Simplement, je voulais vous faire réagir sur cette motion de censure citoyenne lancée par les initiateurs de la pétition loi travail. À cette heure, on en est à 61 396 personnes qui l'ont signée, soit 106 fois plus que l'Assemblée nationale. On sait également qu'il y a des mouvements de Nuit debout. Est-ce que vous avez l'espoir d'un apaisement citoyen avant la fin du mandat et après ces deux 49-3 ?
Voilà une question pour le moins complète. Moi, je suis très inquiète par le déclenchement du 49-3 cette semaine sur ce sujet-là, parce qu'on sait que depuis de nombreuses semaines, les mobilisations citoyennes, il reste quand même, faut admettre, en tout respect, minoritaire, bien évidemment, dans le pays, mais ces mobilisations ont lieu.
Minoritaire, mais longue dans le temps.
Longue dans le temps, oui. Elles traduisent quelque chose. D'ailleurs, Nuit debout, Hautes-Alpes m'a demandé de les recevoir, on échangera demain, parce que je pense que tout le monde doit pouvoir s'exprimer sur cette question-là. Donc, à votre réponse, est-ce que vous pensez que les choses vont pouvoir se recoller ? Moi, c'est mon objectif politique. C'est l'objectif de la gauche si elle veut rester la gauche. Maintenant, je vous le dis, le déclenchement du 49-3 cette semaine sur la loi travail ne fait qu'envenimer la situation.
Honte, vous disiez, en première réaction, en début de semaine, quand le 49-3 a été évoqué par Manuel Valls. J'ai honte vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Vous avez toujours honte aujourd'hui où la tension est redescendue et vous voyez les choses un petit peu autrement ?
Non, j'ai vraiment honte parce que c'est un texte qui concerne tous les Français, qui concerne tous les Hauts-Alpins, qui fait évoluer la vie au travail avec des désaccords. Moi, j'avais d'ailleurs énormément d'accords. J'ai beaucoup d'accords dans le texte de loi, avec le texte de loi. Mais j'ai honte qu'on ne puisse pas aller sur un débat démocratique sur ces questions-là. Qu'est-ce que ça signifie, un gouvernement de gauche qui refuse de débattre démocratiquement sur les articles d'un texte de loi qui concerne tous les Français et le contrat de travail ? Je ne comprends pas très bien et je le regrette et ça, c'est un sentiment de honte.
C'était donc pas une sortie incontrôlée il y a 3 mois finalement, ce qu'a annoncé Myriam El Khomri dans Les Échos, dans une interview, qui annonçait d'ores et déjà que le 49-3 était une hypothèse envisageable s'il y avait des blocages trop importants. On peut supposer que du fait que la lecture s'est arrêtée avant même la lecture du deuxième amendement, c'était déjà prêt dans leur tête.
J'ai beaucoup de mal à imaginer que tout ceci ait pu être monté d'aussi loin. Et en même temps, j'étais à la réunion chez le Premier ministre mardi matin. Je peux dire que le compromis n'a, contrairement à ce qui a été dit, pas été recherché jusqu'au bout.
Que faudra-t-il faire, justement, je reviens sur la question initiale, mais que faudra-t-il faire pour retrouver l'apaisement ?
Accepter le débat démocratique, accepter de passer par
maintenant,
les élus.
Maintenant, c'est trop tard, mais...
Alors, oui et non, parce qu'on a quand même une deuxième lecture de la loi. La Ve République a peut-être mis le Parlement dans un grenier, mais enfin, le grenier en question, il faut le traverser deux fois. Et il y a une deuxième lecture, et je pense qu'on ne doit pas lâcher la nécessité d'aller au travers de tout ce texte de loi en hémicycle, parce que sinon, les Français ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas que des modifications durables de leur vie quotidienne et de leur vie au travail n'aient pas fait l'objet d'un débat public.
Bon, on y reviendra évidemment plus en détail sur cette question tout à l'heure dans la deuxième partie d'Au bout de l'actu. Avant cela, vous réagirez dans un instant à l'actualité des Alpes du Sud qu'on va tout de suite passer en revue sur Alpes. Et à la une de l'actualité des Alpes du Sud, tout d'abord, c'est l'affaire des bébés secoués par une assistante maternelle du Gapençais attendue devant la justice.
Cette nounou d'une cinquantaine d'années suspectée d'actes de maltraitance sur nourrissons comparaîtra prochainement à la barre du tribunal correctionnel de Gap. Le juge d'instruction a donc décidé du renvoi pour violence habituelle sur mineurs de moins de 15 ans par une personne ayant autorité. L'assistante maternelle avait été mise en examen en novembre 2014, soupçonnée d'avoir secoué deux frères, deux nourrissons à l'époque, dont l'un âgé de 4 mois, qui avait dû être hospitalisé dans un état très grave. C'était en 2013, des enfants qui ont aujourd'hui 3 et 6 ans et qui doivent être suivis régulièrement par des spécialistes pour séquelles. Un dossier qui avait causé une polémique, notamment au sein du conseil départemental des Hautes-Alpes. Le département qui accorde l'agrément ne l'avait pas suspendu, mettant en avant la présomption d'innocence de l'assistante maternelle plutôt que le principe de précaution.
Dans l'actualité, on revient également sur l'accident mortel de Ribier avec le conducteur présumé qui a été incarcéré. Une information judiciaire pour homicide involontaire aggravé a été ouverte par le parquet de Gap.
Dans la nuit du 28 au 29 avril dernier, dernier, un accident de la route sur la départementale 948 avait coûté la vie à un jeune homme de 22 ans dont le corps avait été retrouvé par les secours sur le siège passager. Quant au conducteur présumé, un Espagnol de 37 ans résident dans les Alpes d'Haute-Provence, il avait été légèrement blessé. Selon le procureur Raphaël Ballan, l'homme était sous l'emprise d'alcool et de cannabis et n'était pas titulaire du permis de conduire. Il avait déjà été condamné en 2009 pour des faits de conduite en état alcoolique et sans permis. Toujours selon le parquet, les circonstances du drame restent encore floues, notamment parce que le mis en cause tient des propos contradictoires sur qui était au volant lors du drame. L'information judiciaire a été confiée au juge d'instruction du tribunal de Gap. L'homme en état de récidive légale encourt une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement.
Loi travail 49.3, force ouvrière dans les Hautes-Alpes appelle à la grève totale et reconductible des salariés jusqu'au retrait du texte.
Une option qui sera évoquée lors de l'Assemblée générale organisée la semaine prochaine du côté des Alpes d'Haute-Provence, CGT, FSU, Solidaires et Unel en cœur contre la loi. L'intersyndicale appelle à la mobilisation mardi à Digne, 10h30 place du Général de Gaulle et 12h30 autour d'un débat sur les initiatives à prendre dans les jours qui suivront.
La présidente de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes d'Haute-Provence, Nicole Pelloux, ne fait plus l'unanimité.
Et aujourd'hui, ce sont plusieurs membres du bureau qui lui tournent le dos. Christophe Barrière et Thierry Souêtre, vice-président, Olivier Deroche et Nicolas Flores, trésorier, ne s'estiment plus écoutés, notamment dans l'action que doit mener la CCI. Ils appellent à un accompagnement plus important de la Chambre consulaire auprès des acteurs économiques et ont décidé de soutenir Roland Gomez pour les élections de la CCI 04 qui auront lieu au mois de novembre. Le fondateur de Proman qui a déposé sa candidature, une candidature portée par l'Union des entreprises.
Buèche, Sisteronné et Laragnier s'uniront en deux temps, dans deux ans.
En deux temps et en deux ans. Mmh. On parle bien évidemment de la carte inter... C'est vrai qu'on s'y retrouve plus aujourd'hui. Hein. On parle bien évidemment de la carte intercommunale alors que la commission départementale de coopération intercommunale, la CDCI, s'est réunie ce lundi. Le préfet a présenté ses options au nombre de trois, à savoir un centre Buèche seul, un centre Buèche Mario Laragnier ou bien une grande intercommunalité avec le Sisteronné. Finalement, les élus ont préféré une fusion en deux étapes, Sisteronné-Laragnier d'un côté et centre Buèche de l'autre pour 2017 et plus qu'une seule intercommunalité en 2018.
En bref, il arrive tout droit du plus haut niveau universitaire canadien.
On parle de sport, on parle de hockey sur glace. À 26 ans, Kevin King, il porte bien son nom, rejoint les Rapaces de Gap. Ses 93 kilos pour 1m85 apporteront du poids à l'attaque. Cet ailier droit de formation possède également de belles qualités de leadership. Le Canadien a notamment été capitaine de l'équipe universitaire de Calgary ces deux dernières saisons avant d'effectuer une courte pige de 3 matchs en AHL avec le club École des Stars de Dallas. 18h14 sur Alpe 1.
Notre invité ce soir est Karine Berger, députée PS des Hautes-Alpes, sur une circonscription et qui englobe une partie du territoire dont on vient de parler à l'instant, Cyrielle.
On parlait de Laragnier, de Buèche, de Sisteronné. C'est vrai qu'on a eu du mal à comprendre tout ce qui allait se passer. Même les élus ont eu également du mal à discuter autour de ça. Est-ce qu'il faut craindre demain, parce que c'est l'argument qui est souvent revenu sur le devant, est-ce qu'il faut craindre de rejoindre des pôles, notamment est-ce que les pôles comme Gap, comme Sisteron, comme Laragne peuvent tout siphonner?
Alors, je ne crois pas. Je pense qu'on est sur des évolutions de territoires qui, par essence, dans la loi NOTRe, se veulent être des territoires plus forts, avec des moyens, avec une forme de vie ensemble des territoires ruraux et des territoires plus urbains. Moi, sur cette question particulière du Buèche, d'abord, première chose, ce n'est pas encore totalement terminé. Nous allons attendre les arrêtés de périmètre. Je fais un appel solennel aux élus qui ont trouvé un accord. Que tout ceci ne tombe pas, ne revienne pas de manière négative en CDCI et après, enfin d'abord en vote des communes et en CDCI. Mmh. Le préfet a fait un travail fantastique. Voilà, je le dis ce soir, le préfet a passé vraiment 2 mois à tenter de faire en sorte de trouver un compromis le plus large possible en partant du vote des élus de la CDCI qui voulaient que le centre Buèche soit rattaché à un pôle plus fort. Bon. Donc moi j'ai toujours dit et je n'ai pas changé d'avis que j'aurais préféré une solution dans les limites départementales, c'est-à-dire qu'on ait un regroupement du Laragnier avec le centre Buèche sans Sisteron.
Et pourquoi?
Parce que je pense que notre département a parce que la politique territoriale dépend quand même beaucoup du conseil départemental et que là on va se retrouver dans des difficultés quand même réelles avec des grandes com-com qui ont vraiment moitié-moitié sur les deux départements. Il va falloir que les deux conseils départementaux se mettent d'accord sur des projets qui seront portés aussi par une com-com commune. Bon, mais j'ai plaidé...
Tout en sachant que la loi NOTRe renforce le pouvoir des régions et on enlève quelques-uns au département, notamment la compétence économique qui est importante vis-à-vis de ça.
Je sais, mais enfin,
les grosses compétences qui resteront, ce sera quoi? Les routes?
Bah, les routes, globalement, c'est pas tout à fait rien. Puis l'aide aux communes, quand
non,
même.
Non, c'est pas rien, bien
enfin,
sûr.
L'aide aux communes, c'est quand même c'est quelque chose de très concret. Donc, bon, ma position, elle est connue depuis le départ. Le précédent préfet Bénard n'avait pas suivi. Toujours est-il que moi, je considère que le travail qui est fait par le préfet actuel est absolument remarquable parce qu'il a vraiment tenté de faire en sorte que les élus soient ceux qui trouvent la solution. La clé qui permette cette structuration du territoire. Et puis, bon, on va tous se le dire, le BEH a besoin d'un avenir. Le BEH a besoin d'une structuration un peu plus forte que une situation qui s'est quand même un peu enquistée au cours des 10 dernières années où les communes étaient de plus en plus isolées, de plus en plus petites. On avait raté l'évolution des intercos dans le BEH au cours des 10 dernières années. On a peut-être une chance d'y aller cette fois-ci. Croyons-y et disons-nous qu'en 2018, on aura quelque chose qui ressemblera à un vrai territoire projet.
Est-ce que le BUH ne s'est pas montré à un moment un peu trop conservateur, un peu trop campé sur ses positions, si bien que le débat aujourd'hui se fait un peu dans l'urgence?
Alors, c'était ma formule peut-être un peu plus diplomatique que la vôtre, sur le fait que pendant 10 ans, on a eu du mal à convaincre les différents élus du BUH de réfléchir à la suite de manière plus structurée. C'est vrai que ça a été un peu... Alors, on sait tous que la réforme de l'intercommunalité d'il y a 3 ans, avait échoué complètement, notamment dans le BEH. Là, on est en phase de quelque chose qui ressemble à du solide. On a réussi à mettre de côté, la plupart des cas, les étiquettes politiques ou les préférences politiques. Allons-y, voilà. Moi, je dis bravo au préfet s'il arrive au bout de cette structuration.
Vous restez avec nous, Karine Berger. On vous retrouve dans un instant, la deuxième partie d'Au bout de l'actu. On reviendra évidemment sur le 49.3, mais aussi sur ses conséquences, parce que 49.3 dit loi qui va être votée d'une manière ou d'une autre, et donc quelles conséquences pour les salariés. On attend vos réponses dans un instant, donc après la pause, et vos prévisions météo France. À tout de suite.
Au bout de l'actu, avec Alex Cam et Cyril Michard.
Mais surtout ce soir avec notre invitée Karine Berger, députée PS des Hautes-Alpes, avec qui évidemment on va revenir sur le 49.3 et la loi travail, Cyril.
Avec cette déclaration, François Hollande passe la loi travail en force. En 2006, il disait que le 49.3 était un déni de démocratie, et dont le a retrouvé la mémoire. C'est une déclaration du collectif qui a notamment lancé loitravail.lol. Alors, est-ce que François Hollande et Manuel Valls sont atteints d'Alzheimer?
Oui, à travers une vidéo qui est évidemment devenue virale et qui est ressortie sur les réseaux sociaux. Vous l'avez certainement vu, Karine Berger.
Alors, ce n'est pas les positions évidemment défendues par le Premier ministre et le Président qui sont persuadés qu'ils étaient face à une posture politique. Moi, je le dis et je le redis, ce texte de loi est un texte qui apporte beaucoup de choses positives. On peut en parler.
On va en parler, bien sûr.
Qui me pose problème sur un certain nombre de points, il faut en parler. Mais qui aurait dû être discuté jusqu'au bout, et il n'y aurait pas eu de honte à voir, à constater des désaccords plus profonds que simplement l'article 2. Donc je pense que le Premier ministre et le Président de la République ont jugé qu'ils n'avaient plus les moyens politiques de continuer l'examen du texte, et que donc la Constitution leur permettait au fond de régler le problème. Je crains, et je l'ai dit vraiment yeux dans les yeux, comme on dit aujourd'hui, au Premier ministre mardi matin, je crains qu'ils aient provoqué l'inverse.
D'ailleurs, à votre avis, et selon votre point de vue, le blocage dès la lecture du deuxième article, pourquoi si vite?
Mais même pas du deuxième article, Alex Cam. J'étais dans l'hémicycle lorsque le premier amendement de l'article 1 est arrivé, suspension de séance. Il n'y avait pas de majorité gouvernementale dès le premier amendement. Donc le problème était beaucoup plus sourd. Alors c'est vrai qu'il y a, je ne vais pas vous mentir, il y avait des positions ultra de certains de mes collègues, y compris socialistes, qui n'étaient pas raisonnables. Mais il serait faux de dire que le débat se portait uniquement sur un article. D'ailleurs, j'ai proposé au Premier ministre, je lui ai dit, tu sais, tu peux mettre de côté l'article 2, c'est une des possibilités, et on continue les articles 3 jusqu'à 54. Il a refusé, parce qu'effectivement, le débat portait sur beaucoup plus que simplement la question très particulière de l'inversion de la hiérarchie.
Donc on en revient à cette idée qu'il y avait peut-être une part de préméditation à travers ce 49.3 qui remonte à cette fameuse annonce qu'avait fait Myriam El Khomri. L'histoire le dira peut-être un jour, aujourd'hui ça reste un point d'interrogation. Juste un mot de dialectique quand même, parce qu'on parle pour le 49.3 de passage en force, de déni de démocratie, d'actes antidémocratiques, avec ces mots, justement, est-ce qu'on ne galvaude pas un peu des notions qui, finalement, font face à un outil qui est prévu par la Constitution, qui n'a pas été écrit dans un régime autocratique.
Alors,
est-ce
oui,
qu'on n'exagère pas un peu ?
Oui, non. Moi, je considère qu'on n'exagère pas. Mais je vais répondre en deux temps. D'abord, sur la question de la Constitution française. Les plus sages et les plus anciens qui nous écoutent savent que 1958 n'est pas une année tout à fait tranquille en France. On est dans un moment où il y a de très grandes tensions en Algérie, des risques de coup d'État. On sort d'un régime républicain incroyablement instable, la 4e République. Donc l'article 49.3 a clairement été mis pour donner, si nécessaire, les pleins pouvoirs au gouvernement. Exactement comme d'ailleurs d'autres articles de la Constitution donnent les pleins pouvoirs éventuellement au président de la République. Donc oui, c'est un article antidémocratique. Toute la gauche l'a toujours dit, toujours écrit, toujours revendiqué. D'ailleurs, j'ai été stupéfaite de voir mon parti, le Parti socialiste, faisait un communiqué pour saluer le 49.3 un 10 mai, en plus, un anniversaire de la victoire de François Mitterrand. Un deuxième élément de réponse. Quelle est la vision que les autres ont ? Alors, il y a eu un épisode très, très drôle hier. En tout cas, ça faisait partie des choses drôles de la journée d'hier. C'est que la série House of Cards, qui est une série américaine sur la politique, très, très connue, j'en ai vu que quelques épisodes, mais qui est très connue, a, sur son compte Twitter, provoqué le Premier ministre de la France en l'accusant d'actes antidémocratiques. Alors, ils l'ont fait de manière très drôle, avec leur héros qui dit à Manuel Valls que la démocratie est overrated, c'est-à-dire est surpondérée. Mais on est quand même aussi, y compris vu de l'étranger, sur un passage en force qui ne peut pas faire de doute.
Ça nous ramène à une idée, c'est que la Ve République a vécu, donc.
Ah, je suis convaincue depuis de nombreuses années qu'effectivement, la
Ve République... Ça rajoute une pierre à votre édifice sur cette question.
La Ve République est à bout de souffle. Et d'ailleurs, on le voit malheureusement, on va le voir sans doute en 2017 de manière terrible, c'est-à-dire qu'on s'apercevra que la Ve République n'a pas été inventée pour un pays à trois partis dominants et que les problématiques qu'on a tous connues lors des régionales vont se placer au niveau national.
Et ça veut dire que s'il y avait un changement de République, vous seriez une des premières à dire que le 49.3 devrait disparaître.
Mais j'ai toujours pensé que le 49.3 devait être supprimé de la Constitution française.
Et au fond, dans ce débat, comment va le PS aujourd'hui ? Comment va la gauche ?
La gauche est très profondément divisée. Maintenant, elle était divisée sur les questions économiques et sociales au travers de la loi Macron, du CICE et donc de la loi El Khomri. Maintenant, elle est en plus divisée sur les questions institutionnelles. Ça commence à faire beaucoup. Alors, on ne va pas se mentir. Hein. Si la gauche n'est pas capable de se reparler et de retrouver un projet commun, il faut se dire qu'on sera battu dès le premier tour de l'élection présidentielle.
Donc, la machine 2017. À perdre n'est pas loin
la
d'être
lancée. La machine à perdre est relancée.
Elle est relancée. Elle n'est pas loin.
Elle est relancée. Et elle est relancée vraiment, j'insiste, par cette semaine qui témoigne du fait qu'on ne peut plus parler et discuter de fond entre nous à l'intérieur de la gauche.
Mais ça, c'est certainement un discours que beaucoup tiennent au sein du PS. Qui, aujourd'hui, ne le tient plus, ce discours ? Qui ne veut pas le mettre
malheureusement,
en ordre ?
Malheureusement, mon discours, celui que je viens de vous tenir, n'est pas tenu par tout le monde. Un certain nombre de personnes au sein du Parti socialiste veulent la cassure, ne veulent pas la réconciliation. Quand le Premier ministre de la France dit qu'il y a deux gauches irréconciliables, même s'il a affirmé qu'il parlait de Jean-Luc Mélenchon après, beaucoup au sein du Parti socialiste pensent que le Parti socialiste doit se séparer. Et je leur dis avec toute amitié à ses camarades que si cela se passe comme ça, il faut se dire qu'on sera pas au premier tour, on ne passera pas le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, ce qui n'est pas mon souhait.
Est-ce qu'on peut se dire, on l'imagine, est-ce qu'on peut se dire aussi politiquement qu'on est à la veille de peut-être la mort du Parti socialiste tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Et qui devra muter d'une manière ou d'une autre, quitte à créer un nouveau parti à gauche.
Écoutez, allons-y, espérons. De toute façon, il va bien falloir quand même qu'on reparte sur des bases communes. Moi, est-ce que mon parti est pour un régime parlementaire ou pas ? J'ai toujours cru. Si ce n'est pas le cas, il faut que certains nous disent pourquoi, comment, quelle est leur proposition. Est-ce que mon parti est pour la défense des droits des salariés ? J'ai toujours cru. Est-ce que ce n'est pas le cas pour certains ? Voilà. Donc, on est vraiment sur un moment de fond, de débat de fond, et qui doit déboucher sur, je l'espère, une reconstruction politique, mais à gauche, pas avec des bouts de la droite.
On vous a toujours senti au milieu dans ces affaires de PS, c'est-à-dire pas vraiment frondeuse, pas vraiment trop pro-gouvernementale. Aujourd'hui, vous vous situez où ? Est-ce que ça a fait bouger votre curseur ?
Non, on est toujours à la jonction. D'ailleurs, c'est très intéressant. Nous, on a mon courant est vraiment en plein milieu du PS, puisqu'on a.
On parle de la fabrique, hein, c'est la fameuse motion D.
Ouais,
hein.
On était présents à la réunion. On avait des représentants à la réunion de ceux qui ont tenté de faire une motion de censure de la gauche, et certains minoritaires, certains ont signé de ma motion. Donc,
oui,
on est
vraiment Alexis Bachelet l'ont signé.
Voilà,
cette motion.
Donc on est vraiment toujours et encore ce qu'on a été dans lors des derniers congrès, à l'endroit. Alors, je ne sais pas si c'est à l'endroit où ça se joint ou à l'endroit où ça casse. Mmh. À voir.
Mais pourquoi d'ailleurs vous n'avez pas rejoint ce courant de cette gauche et de votre motion à signer cette motion de censure de gauche? Parce que, voilà, on entend bien à travers ce que vous nous dites, la colère, la honte, le déni de démocratie que vous ne remettez pas en question dans cette forme dialectique. Pourquoi finalement ne pas être allé jusqu'au bout?
Parce que l'absurdité de la chose, c'est que moi et la plupart de mon courant, on approuve le texte de loi. C'est cette situation complètement folle. Ou alors même que le texte de loi, parce qu'il apporte le CPA, parce qu'il apporte une lutte contre les travailleurs détachés, ce qui pour les Hautes-Alpes est absolument indispensable pour lutter contre notamment la concurrence déloyale pour les arboriculteurs, etc. Tout ceci est apporté par le texte de loi. Moi, avec des réserves très particulières que je pourrais exposer tout à l'heure, je voulais voter ce texte de loi. Donc je ne vais quand même pas voter une motion de censure sur l'ensemble de la politique du gouvernement que, par ailleurs, je soutiens.
Mais vous auriez pu aller jusqu'au bout de votre raisonnement, là, de dire « Ok, allons-y, cassons tout et on recrée quelque chose à gauche. »
Non, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis persuadée que si on doit reconstruire quelque chose, c'est au Parti socialiste, dans les partis politiques. La majorité parlementaire, elle ne sera pas changée d'ici 2017. Donc, je vous avoue très clairement que je ne comprends pas quelles seraient les conséquences institutionnelles d'une motion de censure de la gauche. Je ne sais pas ce qui se passe après, en fait.
Alors, il y a plusieurs... Vous nous dites, la loi, moi, j'étais plutôt pour. Difficile de la conjuguer aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas si on parle au présent, au futur ou au passé. Mais 20 amendements que vous aviez déposés de votre côté, qui portaient sur quel point? Quand on parle d'amendements, on se remet dans le contexte, ça veut dire qu'on est d'accord en partie sur la loi, mais qu'on veut y apporter quelques changements au-delà de la virgule pour arrondir les angles.
Alors, d'abord, il faut savoir que tous ces amendements sont à la poubelle. Il n'y en a aucun qui n'a été examiné. Le point qui m'a le plus inquiété, c'était suite à une réunion avec les militants socialistes sur la question des heures supplémentaires. Beaucoup de militants socialistes, et vraiment des militants socialistes réformistes, comme on dit maintenant sur les différentes tendances, m'ont dit « Karine, le recalcul des heures supplémentaires à la période de référence, c'est dangereux. Les gens vont perdre de l'argent à la fin du mois. » Donc ça faisait partie des choses que je voulais qu'on discute, qui n'auraient pas été discutées. Un autre point qu'on portait avec mon courant, c'était un renforcement du CPA, le fameux compte personnel d'activité, qui va permettre quand même aux gens d'avoir des droits portables d'un contrat à l'autre. On voulait par exemple que pour les sapeurs-pompiers volontaires, et dans le département, Dieu sait si c'est du super concret, il y ait la possibilité d'engranger des droits dans ce CPA quand on est sapeur-pompier volontaire. Pareil, c'est poubelle. On voulait renforcer le droit syndical. Là, c'est suite à une rencontre que j'avais eue avec les représentants syndicaux. On proposait et puis c'est une idée de notre courant depuis longtemps, on proposait que quand quelqu'un signe un contrat de travail, on lui propose immédiatement de rejoindre un syndicat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comment faire une loi sur le dialogue social si les gens ne se syndiquent pas? Donc on proposait tout simplement de proposer automatiquement, lors de la signature du contrat de travail, d'être assimilé, de rejoindre un syndicat, libre évidemment à la personne de ne pas le vouloir. On proposait aussi, ça fait partie des amendements qui ont fait beaucoup parler d'eux la semaine dernière, de donner le droit aux salariés de ne pas répondre à leur téléphone portable quand le patron appelle, parce qu'on est là sur des cas d'accidents de la route qui d'ailleurs concernaient il n'y a pas très longtemps les Hautes-Alpes. On voulait aussi faire en sorte que, ça a été corrigé, que le périmètre de référence des licenciements économiques ne soit pas la France, mais soit l'international.
Ouais, au grand dame du MEDEF d'ailleurs, au passage.
Au grand dame du MEDEF. Voilà, je ne vais pas tous vous les passer, mais vous voyez, c'est pas des lubies, c'est pas du droit pour esprit très abstrait. C'est du concret qu'on voulait changer.
Et aujourd'hui, quand on dit de ce projet de loi qu'il facilite les licenciements, vous êtes pour ce discours, contre ce discours?
C'est inexact, honnêtement. Autant la première version du texte de loi, celle d'il y a 2 mois. On pouvait considérer qu'il y avait...
En effet, il y a eu des améliorations. Il y a quand même des points améliorés. Il y en a à peu près 4 qu'on a pu prendre, notamment. Une entreprise peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques, juste en justifiant une baisse de chiffre d'affaires ou du montant.
Alors, c'est les fameux accords offensifs. Merci de m'en parler. Mois. On proposait, nous, dans les amendements, de limiter la durée d'un accord offensif à 1 an. Là encore, pour tenter de verrouiller les choses. Sur ce point-là... on aurait eu des désaccords. Et alors, je suis assez fâchée parce qu'en plus, dans le texte de loi tel qu'il a été annexé, dans le texte de loi tel qu'il existe désormais, il y a eu une modification importante. C'est que si on refuse un accord offensif, on n'est plus licencié économique, mais on est licencié pour raison personnelle, ce qui est quand même beaucoup plus grave que tout le reste.
Il y a aussi un autre licenciement, c'est le licenciement pour cause réelle et sérieuse si on refuse justement un accord en cas de difficulté économique, un accord prévoyant une baisse de salaire ou une hausse de l'emploi.
Alors, c'est un petit peu compliqué. Cause réelle et sérieuse, c'était la première version. C'est devenu licenciement économique en commission des affaires sociales. Et là, c'est un nouveau, dans le texte qui a été diffusé hier soir, on l'a lu en urgence, c'est encore un nouveau motif, c'est pour raison personnelle. Donc, on est dans une sorte de zone grise qui a encore un autre motif de licenciement.
On va continuer à décortiquer quelques points, si vous voulez bien.
Je suis désolée, c'est très technique. J'imagine que ceux qui nous écoutent doivent se dire, mais mon Dieu, la seule excuse que j'ai, c'est qu'il y a 54 articles.
Oui. Non, mais on va pas passer les 54 en revue, que ceux qui nous écoutent se rassurent, mais en revanche, on va essayer de synthétiser, de vulgariser un peu tout cela pour essayer de comprendre et illustrer ces points concrets et qui fait qu'aujourd'hui, vous auriez quand même voté cette loi travail. D'ailleurs, une question, vous l'auriez voté malgré le fait que vos amendements ne soient pas passés, s'ils avaient été discutés ?
Alors, évidemment, je ne peux pas vous dire que j'aurais voté à tous les coups la loi, puisque je ne sais pas quel texte aurait été abouti du débat. Mais j'avais envie de voter ce texte parce que, encore une fois, il y a des apports pour les salariés qui sont très importants.
On verra quels seront ces apports en question et ces points qui sont peut-être encore améliorés dans un instant. Donc, juste après, une pause. À tout de suite sur Alpe 1.
Au bout de l'actu, Alpe 1, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Et avec notre invitée ce soir, Karine Berger, députée PS des Hautes-Alpes, avec qui on revient et on essaie de vulgariser et de ne pas trop se perdre dans le côté technique, mais sur certains points de la loi travail qui auraient pu être améliorés. Parmi ces points, Cyrielle, sur lesquels on peut revenir encore.
Il y avait notamment, en cas de transfert d'entreprise, la loi facilite également les licenciements, en tout cas de ce qui est dénoncé, puisqu'elle autorise le repreneur à n'embaucher qu'une partie des salariés et de licencier les autres.
Alors, je vous avoue que là, pour le coup, j'ai, comme je le crois, en train de le montrer, beaucoup regardé la loi, mais ce point-là, je ne l'ai pas en tête. Donc, je ne sais pas à quoi il fait référence parce que ça n'est pas partie des choses qu'on a vu et analysées.
Ça a été notamment dénoncé par le collectif pour la loi travail.
Juste un point, peut-être que c'est exact, peut-être que c'est inexact, mais comment voulez-vous, quand on n'a pas la possibilité de débattre article par article, être complètement certain au final de la version. Donc voilà, je répondrai plus tard sur ce point.
Oui, mais alors du coup, une autre question me vient. Comment peut-on répondre article par article ? On le comprend, mais comment peut-on être pour alors cette loi, ce qui est votre cas encore aujourd'hui, malgré le fait qu'elle soit incomplète et imprécise pour vous, comment on peut être pour aujourd'hui, au point d'être capable de la voter sans être sûr que ça peut aller à l'encontre des salariés, justement.
Ah bah, encore une fois, c'est bien pour ça que je suis très en colère qu'il n'y ait pas eu de débat en hémicycle. C'est qu'on aurait vérifié quand même exactement où on en était du texte de loi. Pourquoi je suis plutôt favorable ? Premièrement, parce que du côté des fameux accords d'entreprise, la loi prévoit quelque chose de très important. Jusqu'à présent, les accords entre syndicats et patrons, devaient être validés par seulement 30% des syndicats. Enfin, de représentation syndicale, aujourd'hui c'est 50%. C'est-à-dire qu'on passe bel et bien aux accords majoritaires. Ce n'est pas rien. Vous avez suivi peut-être les débats, alors ça concerne plutôt Paris, sur l'ouverture des magasins le dimanche. Imaginons qu'il y ait eu 30% des syndicats qui aient signé un accord pour ouvrir le dimanche. Compliqué. Alors que là, les salariés se sont exprimés, en partie, et ça a été rejeté dans la plupart des cas. Le référendum, d'ailleurs, est à mon avis aussi une belle solution. Deuxième exemple qu'apporte cette loi et qui est très important, je crois, c'est cette idée de droit à la déconnexion. Alors, ce ne sera pas la déconnexion au volant comme je souhaitais, mais c'est l'idée que quand on est dans sa vie privée, on n'est pas obligé de répondre à ses emails en permanence, etc.
Juste, je reviens sur votre motion qui en a fait sourire certains, cette idée de droit à déconnexion au volant.
Je n'ai pas très bien compris pourquoi c'était rigolo, parce que la sécurité routière, ça ne me fait pas rien.
Mais non, mais parce que peut-être la loi déjà l'interdit de répondre au téléphone au volant.
Ah mais non, c'est inexact. La loi n'interdit... Enfin, ce qui n'est pas autorisé, c'est la réponse avec oreillette ou évidemment avec l'appareil. Mais en revanche, avec Bluetooth, c'est auto-autorisé.
Ou au moins toléré.
Ah non, autorisé. Ce qui est illégal, c'est la réponse avec oreillette. Qui est légal, si vous avez un système de Bluetooth, vous répondez, votre patron vous appelle, votre client vous appelle, vous répondez avec un système Bluetooth, vous êtes dans la légalité. Sauf que tout le monde sait que quand vous discutez avec un client, vous ne pensez pas forcément à tout ce qui se passe autour de vous. Donc, j'ai vu que notamment un des élus de droite, un jeune élu de droite, c'est peut-être pour ça,
qui s'appelle Arnaud Murgia, qui est conseiller
du département, qui de toute évidence
Les Républicains dans les Hautes-Alpes.
Il n'a pas forcément beaucoup travaillé dans sa vie, en tout cas pas avec des clients et un patron. Avait souri. Moi, je rigole jamais quand il s'agit de sécurité routière et d'éviter des morts sur la route. Après, libre à lui de trouver ça rigolo.
Alors, en effet, il y avait eu des avancées. On parlait du temps de travail des apprentis mineurs. La loi prévoyait d'autoriser les entreprises à les faire travailler jusqu'à 10 heures par jour et 40 heures par semaine.
Abandonné,
finalement, ça a été retiré. Par contre, il y a une autre question qui se pose, c'est autour du contrat de professionnalisation. Alors, est-ce que vous avez eu le temps, notamment, d'en entendre parler? Le contrat de professionnalisation ne serait plus forcément qualifiant, ça ne serait plus qu'un bloc de compétences non reconnues par l'État. Dommage, pas dommage?
Non, je ne crois pas que ce soit dans le texte de loi, ça. Enfin, je suis désolée, là encore, il n'y avait pas de dédiplomisation du contrat de professionnalisation.
Plus de reconnaissance de l'État.
En tout cas, non. Enfin, bon. Je sais pas. Ouais. Pour le coup, il y a pas
d'interrogation là-dessus. Ouais.
Non, c'est pas un point d'interrogation. C'est pas prévu dans le texte de loi tel qu'il a été publié hier. Voilà.
Simplement. Non, mais
ça prouve bien qu'il y a encore de grosses zones d'ombre. Hein.
Et justement, par rapport à ce point d'interrogation, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ceux qui vont manifester contre ce projet de loi travail et qui sont inquiets?
Je leur dis, les accords d'entreprise sont désormais majoritaires et plus minoritaires, ce qui est quand même très très bien. 2, vous allez avoir le droit à des connexions. 3, le plus important, vous avez le CPA, le compte professionnel d'activité. Dans les Hautes-Alpes, c'est super important. On sait tous que dans notre département, les gens ont plusieurs métiers, des contrats saisonniers, etc. Avoir la possibilité d'accumuler des droits au fur et à mesure de ces différents contrats, ce qui n'existe pas dans le droit social français, c'est une merveilleuse idée, c'est une idée de gauche depuis très longtemps. On l'a enfin inscrit, on verra. Mais à ce stade, c'est inscrit dans un texte de loi qui passe en force. Donc voilà, il serait étonnant de ne pas admettre qu'il y a vraiment des droits sociaux dans ce texte. Et je suis la première, par ailleurs, à reconnaître qu'il y avait encore des points à discuter. Pour moi, le point le plus dur, encore une fois, c'est désormais, du coup, la question des heures sup.
Une question sur qui peut se poser légitimement. Est-ce qu'au bout du compte, et est-ce que politiquement, il n'y a pas eu à travers ce 49-3 un coup politique de Manuel Valls en faveur de ceux qui, au PS, seront candidats aux législatives, qui serait finalement un moyen pour ces futurs candidats de s'exonérer d'une loi qui est totalement impopulaire aujourd'hui? Vous allez me dire, là, je me triture peut-être l'esprit tout seul, mais...
Non, vous ne triturez pas du tout l'esprit, vous êtes même bien informé, puisque je sais que certains députés... ont demandé à ce qu'on abrège nos souffrances, pour reprendre l'expression de certains. Je pense que c'est une erreur politique majeure, puisque nous sommes comptables de la majorité du gouvernement et par ailleurs en plus comptables du 49-3, d'une certaine façon. Et donc on assumera en bloc ou on n'assumera pas.
On va passer à autre chose que le 49-3. On va aborder quelques autres sujets d'actualité.
Une question. On arrive à un an des élections présidentielles. Le challenge, c'est de vous fixer un objectif, celui de faire un bilan du mandat présidentiel.
Là, aujourd'hui. Tout de suite, en 10 secondes.
En 10 secondes, et c'est là qu'avec donner... votre humeur du jour. Mais...
Je vais vous donner peut-être 4 points qui sont pour moi les plus forts. Le mariage pour tous, on sera toujours très très fiers d'avoir fait voter ça. La réforme de l'école, mais tout le programme éducatif, c'est-à-dire les créations de postes, les 60 000 créations de postes, mais aussi le passage à 4 journées et demie pour les enfants. Alors, je sais que c'est très impopulaire à certains endroits, mais je suis persuadée...
Parce que ça reste considéré comme un échec aujourd'hui.
Non, ça ne reste pas considéré comme un échec.
Fait la sortie des écoles, Karine Berger, dernièrement, pour en parler aux parents d'élèves.
Je peux vous assurer qu'en porte-à-porte, on n'hésite pas à m'en parler très, très régulièrement. Ce qui est considéré parfois comme un échec, c'est les activités périscolaires mises en place par les maires, et notamment le maire de Gap. Pour ne pas le citer.
Parce qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens tous de répondre aux...
Je crois que la mairie de Gap avait la possibilité... Quand on voit que des communes comme Lépine, comme Valserres, comme Rosan ont mis en place des mécanismes incroyables d'activités périscolaires...
Donc c'est que de la mauvaise volonté.
C'est de la mauvaise volonté. Ouais. Je parle là des 4 journées et demie, c'est-à-dire le rythme de l'enfant. On a fait quelque chose pour l'enfant. Et dans l'éducation nationale française, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Troisième motif de fierté... La question je pense que vous allez me parler du sujet après, donc je tends aussi la perche, la question de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l'égalité homme-femme. On a une loi d'égalité homme-femme qui a profondément renforcé les droits des femmes, et notamment dans les entreprises. J'étais invitée dans le cadre de l'OCDE à l'autre bout de la planète pour donner l'exemple de la France en matière de politique en faveur des femmes sur le marché du travail et d'égalité hommes-femmes et de lutte faite aux femmes.
Un discours qui a dû prendre un petit coup dans l'aile, là, au vu de ce qui s'est passé dernièrement, non?
Alors, justement, on va y revenir tout de suite après. Et quatrième point, parce que j'en suis extrêmement fière, et c'est notre majorité qui aura voté la fin du cumul des mandats, 2017, mandat obligatoirement non exécutif local et mandat national. Voilà, donc ce n'est pas déjà tout à fait rien comme bilan en l'espace de 10 secondes.
Oui, mais un échec en ce qui concernait le principal mot du président Hollande aujourd'hui, se battre contre la finance.
Alors,
se battre contre la finance et faire du chômage l'ennemi numéro un. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aurais une question. Pourquoi n'avez-vous pas voté le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement qui a été présenté en première lecture le 8 mars dernier? Vous êtes abstenu.
Oui, tout à fait. C'est le seul projet de loi, pour être clair et transparente, c'est le seul projet de loi du gouvernement sur lequel je me suis volontairement abstenu.
Effectivement.
Parce que les mesures mises en place dans ce cadre, notamment les possibilités, on va dire, de perquisition administrative généralisée ou aussi la question des écoutes rendues possibles dans ce cadre de loi me paraissent inquiétantes, ne relèvent pas à mes yeux de manière absolument certaine de l'état de droit et je considère qu'il y a un équilibre à trouver entre les mesures de sécurité de notre territoire et les libertés individuelles. Et dans ce cadre de loi, je n'étais pas à l'aise pour valider cette évolution de l'équilibre.
Comment vous allez pouvoir soutenir la potentielle candidature de François Hollande demain s'il est candidat à la présidence de la République au vu de tout ce que vous venez de nous dire globalement, de beaucoup de déceptions, beaucoup de fierté aussi sur les quelques points que vous nous avez rappelés ce soir, mais beaucoup de déceptions. Est-ce qu'il pourra rester votre candidat ?
Écoutez, à ce stade, c'est mon candidat. Maintenant, je vous avoue que moi, je suis fière de beaucoup de choses. Et je pourrais continuer la liste. Je me suis arrêtée à 4 parce qu'on n'a pas 2 heures d'antenne. Je défendrai le bilan de notre majorité et de François Hollande. Maintenant, j'attends de la part du futur candidat, j'espère, à l'élection présidentielle, un mot sur les institutions de la France. On ne peut pas rester sur ce goût amer d'une France dont les institutions ne sont pas suffisamment démocratiques à mes yeux. Et donc j'espère que justement la campagne qui va s'organiser dans l'année qui vient nous permettra de revenir à des propositions institutionnelles démocratiques.
De la candidature de François Hollande dépendra votre candidature pour un nouveau mandat ?
Alors c'est très compliqué d'en parler maintenant. D'abord, il faut que vous sachiez qu'au Parti Socialiste, ce sont les militants qui désignent les candidats. Il est possible et probable...
Vous pourriez vous présenter
Il est possible et probable que je sois candidate militants. Devant les militants. C'est vrai que si c'est un autre candidat socialiste à l'élection présidentielle, les choses seront peut-être différentes pour moi, tout simplement parce que je veux assumer le bilan de cette majorité dont je fais partie. Si c'est un autre candidat socialiste, j'attendrai quand même de savoir son positionnement.
Allez, on vous retrouve dans un instant, Karine Berger, et on parlera d'un sujet qu'on a failli laisser de côté dans un instant. On parlait en filigrane, et certains auditeurs ont peut-être compris, de l'affaire Baupin. On en parlera dans un instant, à travers notamment la Tribune Libre. À tout de suite.
Au bout de l'actu, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Et avec notre invitée ce soir, Karine Berger, pour ces derniers instants. Karine Berger, députée PS des Hautes-Alpes, avec qui on passe à la Tribune Libre, Cyrielle.
Près de 3 personnes sur 10 affirment avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel, selon un sondage Elab qui a été fait justement après l'affaire Denis Baupin. Un phénomène plus répandu chez les femmes, mais qui touche tout de même également 7% des hommes. Face à ce phénomène, la société française est perçue comme trop laxiste par 80% des personnes sondées. Alors, est-ce qu'on en fait trop autour de l'affaire Denis Baupin ? Selon vous, où est-on le plus souvent victime de harcèlement sexuel et comment le prévenir ? 3 questions. Déjà, est-ce qu'on en fait trop sur l'affaire Denis Baupin ?
Oh non, on n'en fait pas trop. C'est même minimum ce qu'on fait. C'est-à-dire que,
et la présomption d'innocence, Karine Berger ?
Mais est-ce que quelqu'un a dit que M. Baupin était coupable ?
Non, mais commentaires qui sont faits autour de Denis Baupin le mettent coupable de fait. C'est-à-dire
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pense que les commentaires se bornent, en tout cas mes commentaires à moi, mais les commentaires de la plupart des gens se bornent à dire que les personnes qui considèrent avoir été victimes de ce type d'agissement doivent parler et que l'affaire Denis Baupin est bel et bien sur la question de la parole et pas de la culpabilité ou pas, qui relève de la justice.
On a beaucoup entendu d'ailleurs aujourd'hui dire encore des féministes qui parlent. Aujourd'hui, c'est quoi le féminisme ?
C'est une excellente question. Je pense que le féminisme est une idée très moderne, indispensable, que notre société, parce que ça va mal, parce qu'il y a une crise économique, se replie sur une vision traditionnelle, plus machiste. Que le rapport de force est défavorable aux femmes dans notre société en ce moment même et que le féminisme est galvaudé par certains, tout simplement parce qu'il porte ce message d'égalité magnifique qui est de dire il n'y a pas de raison de faire de différence entre les hommes et les femmes dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours, dans les droits, etc.
Et alors à l'Assemblée, c'est si machiste que ça, tel que c'est décrit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ça l'est réellement. On a vu d'ailleurs Michel Sapin faire un mea culpa et un retour en arrière sur ce qui s'était passé avec la journaliste. Oui, très bien. On peut se demander aussi pourquoi il a nié dès le début et qu'une fois qu'il a senti l'étau se resserrer, il est revenu sur ses paroles aussi.
Je pense qu'on est dans le cadre politique, dans une situation assez, enfin, qu'on retrouve dans des entreprises, qu'on retrouve dans nos endroits, mais avec une situation un peu plus particulière parce qu'en plus, on a le réflexe du groupe. Vous savez, moi, je suis députée d'une majorité d'un groupe et je me dis que si je parle de quelque chose, en l'occurrence, il ne m'est rien arrivé, mais bon, si je devais m'exprimer de manière négative sur quelqu'un de mon groupe, c'est tout le groupe que je mets en danger. Mmh. C'est ça la raison pour laquelle le monde politique est plus sensible, ou plus tenté à parler omerta, c'est qu'on n'a pas que la personne en question qui est pointée du doigt éventuellement, c'est aussi tout son groupe politique ou tout son propre groupe politique. Mmh. Après, les choses évoluent. Moi, j'ai vu des choses très, très machistes dans le monde politique, mais je vois aussi que la jeune génération n'est plus du tout sur ces réflexes-là. Je constate que mon parti, les messieurs d'un certain âge de mon parti ont mis un peu de temps à réagir à l'affaire Bobin, en tout cas à reconnaître que la parole des femmes qui parlaient cette semaine devait être saluée, mais on l'a obtenue. On a réussi à aller les chercher, ces messieurs, à leur demander une réaction et ils l'ont donnée.
En fait-on trop autour de l'affaire Denis Baupin? Selon vous, où est-on le plus souvent victime de harcèlement sexuel? Comment le prévenir? On vous a évidemment vous aussi posé la question, on vous écoute.
La tribune libre.
Je pense qu'il faut quand même punir ceux qui mettent les femmes dans des situations pareilles. Et il faut faire quelque chose de toute façon, parce que c'est pas normal, quoi. Moi, je pense que c'est plus au travail. Les femmes sont peut-être en minorité et voilà, et on n'a pas le dessus, ça c'est bien dommage. Ça sort un peu tard, il faudrait peut-être que les femmes elles, se décident à parler plus tôt. Les femmes ont peur.
C'est toujours en sourdine, donc les gens n'osent pas parler. Oui, des campagnes d'abord, mais surtout éviter que les gens se laissent aller par la parole des gens, puisque par rapport à des allusions, quoi.
Moi, j'ai été victime déjà aussi d'harcèlement sexuel dans le cadre de mon travail. En fait, les victimes de harcèlement soient plus... n'hésitent pas à porter plainte. Faudrait peut-être aussi faire des campagnes.
La tribune libre.
Ça commence quand le harcèlement sexuel? Ça commence quand le harcèlement tout court?
Alors, c'est une très bonne question. Le harcèlement sexuel est défini de manière très claire par la loi que nous avons fait adopter en 2012 sur l'égalité hommes-femmes. Dès le premier acte qui serait... que on vous propose une évolution de carrière ou une évolution quelconque dans votre cadre de travail contre une faveur sexuelle, vous êtes, la première fois, vous êtes dans le harcèlement sexuel qui est puni de manière...
C'est ce qui est le plus direct. On sait aussi que ce n'est pas souvent amené comme ça. C'est plus subtil, si je puis dire, ou plus vicieux de la part de celui qui sera le prédateur sexuel et qui ne montrera pas forcément que telle faveur amènera telle récompense, entre guillemets.
Les situations sont souvent beaucoup plus grises. Mmh. Maintenant, ne sous-estimez pas les cas que je viens de décrire.
Aussi
simple que
ça. Ils
sont beaucoup plus nombreux que ce que même moi, je pouvais imaginer. Après, il y a la question du harcèlement moral au travail qui, là, relève d'une autre définition qui est une agression permanente de demande qui est qualifiée par un certain nombre de faisceaux de faits et qui relève d'un autre démarche pénale. On est aussi dans le débat qui s'est ouvert cette semaine, pas que sur les questions juridiques et d'actes illégaux ou légaux, on est aussi sur des organisations culturelles. Dans une entreprise internationale, je peux vous assurer que américaine ou allemande, si ce type de situation grise se produit, les personnes sont immédiatement mises à pied ou écartées. En France, la zone grise est beaucoup plus tolérée. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que les gens ne parlent pas et qu'ils ne savent pas eux-mêmes s'ils sont dans la zone grise légale, pas légale, autorisée, pas autorisée. Changeons nos mœurs, changeons notre culture, changeons les relations entre les hommes et les femmes au travail. Et faisons en sorte qu'on rentre dans la modernité, dans le respect de la personne et de l'égalité et du respect tout simplement de l'autre. On peut très bien avoir toutes les formes de relations, y compris des formes de relations de séduction, dans le respect absolu de l'égalité entre les deux personnes.
Allez, avant-dernier rendez-vous, avant de nous quitter, Karine Berger, la phrase du jour.
Alpe 1, 18h-19h, au bout de l'actu sur Alpe 1.
La phrase du jour, Cyrielle.
Qui a dit « J'espère que c'est un canular J'espère.
Alors, qui a pu dire ça? Je vous fais des propositions, vous connaissez déjà la réponse.
Je crois que c'est Stéphane Le Foll.
Mais oui, effectivement.
C'est bien Stéphane Le Foll sur la prétendue candidature d'Emmanuel Macron au présidentiel. Hein,
le 10 juin.
Voilà, le 10 juin, selon des informations de Mediapart, le ministre s'apprêterait à déclarer sa candidature.
Vous n'y croyez pas une seule seconde, apparemment.
Oui, non. Je vous avoue que les positions d'Emmanuel Macron me laissent de plus en plus perplexe. Moi, je suis quelqu'un qui se dit profondément de gauche, qui se revendique de gauche. Je suis parfaitement à l'aise pour dire qu'en politique, il y a des gens qui ont des idées de gauche et d'autres des idées de droite, que, voilà, c'est... et que je respecte les idées de tout le monde. Mais cette idée qu'on pourrait aujourd'hui en France se mettre d'accord sur tout, mais enfin, quand même plutôt sur les questions libérales, me fait penser que M. Macron ne sait pas très bien où il habite.
Et au la gauche, debout la gauche, en marche, vous en êtes où, vous ?
Alors, il est probable que l'ensemble de ces mouvements doivent à un moment se rejoindre parce qu'il n'existe pas 36 candidatures possibles à l'élection présidentielle de 2017. Donc, soit on est tous derrière notre candidat, qui, je l'espère, sera François Hollande, soit on part tous en marche, en courant ou en étant debout, assis et en criant et haut. Et dans ce cas-là, personne n'arrivera au bout du chemin.
Et en même temps, vous nous avez aussi dit que la machine à perdre était en route, donc... On peut déjà estimer que le destin du Parti socialiste est en partie cédé à cette heure.
En tout cas, il mérite. Il a subi un changement de rail cette semaine assez violent, et j'espère qu'on aura la force tous collectivement de remettre sur le chemin de la victoire l'année prochaine.
Bird Onwire, les quelques notes qu'on entend derrière nous sont le choix musical de notre invité ce soir, Karine Berger. Bird Onwire, c'est bien sûr Leonard Cohen. Un mot sur le choix de cette chanson?
C'est une chanson très dure qui parle de la question de la liberté, mais en même temps du respect de l'autre. J'y ai pensé au travers, évidemment, de tout ce qui s'est passé cette semaine. Ce n'est pas une question de harcèlement, c'est la question de savoir si on dit la vérité à l'autre personne, dans sa relation amoureuse, dans sa relation tout court. Et si on veut en même temps être un oiseau sur sa branche, tout seul, équilibre à trouver entre les deux.
Allez, on en écoute un extrait pendant que vous passez dans le self-o-maton.
On the wire. Like a drum in some old midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a gnat bent down in some old fashioned. It was the shape of our love, twisted me. If I had been unkind, if I had been unkind, I hope you can find a way, let it all. Right on back. If I have been.
Extrait du live de Toronto en 1988, à l'instant Leonard Cohen, avec Bird on Wire, le choix de notre invité ce soir, Karine Berger, députée PS des Hautes-Alpes. Merci d'avoir été notre invité ce soir.
Merci pour votre invitation.
Et merci de cet éclairage partiel, on va dire, pour ce fameux 49.3 et cette loi travail qui amènera une évolution dans les semaines à venir. À très bientôt sur Alpe 1.
À très bientôt.
Dans un instant, la suite, le récap de l'info.